on peut y aller. J'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, je suis content d'être avec vous dans cette journée si particulière, parce que c'est une journée particulière, une présentation d'enfants, aussi bien pour l'Église que pour les parents. Je sais, je parle en connaissance de cause, puisqu'on est passé par là avec deux, nous, Léo et Alix, et c'est une journée particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, surtout quand on est parent, parce que la famille et les amis sont là, et c'est pour moi encore l'occasion de souhaiter la bienvenue aux amis et à la famille de Noémie et Nicolas ce matin. Mais aussi parce que je sais, comme je vous l'ai dit, par connaissance de cause, ça touche à notre petit être, notre petit bout de chou, donc c'est toujours particulier. Et parce que c'est également une journée qui est souvent accompagnée de belles promesses pour celui-ci. Alors il y en a eu beaucoup déjà ce matin. Et le Seigneur a mis sur mon cœur une promesse pour le petit Victor. Et je voulais commencer par ça ce matin, dans la continuité de ce qui a été partagé. Noémie, Nicolas, le petit bout de chou que vous avez dans vos mains, malgré sa petite taille et malgré son petit âge, sachez-le, Dieu a déjà un regard sur sa vie. Amen. Et surtout, Dieu a déjà dans sa tête un plan parfait pour sa vie, un plan qu'il vous communiquera et qu'il lui communiquera en temps et en heure, et que surtout, c'est important, il lui laissera le libre choix de suivre ou pas, mais un plan, et c'est surtout ça qui est le plus important, notez-le, qui n'aura qu'un seul but plus tard, faire de ce petit Victor un homme pleinement épanoui en Christ. Et cette promesse ce matin, qui est propre au petit Victor, d'une certaine manière, elle l'est également, et elle pourrait l'être pour chacun d'entre nous. Alors je sais, ce matin, on vient tous un peu d'horizons différents, il y a ceux qui viennent les habitués, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui viennent ici peut-être pour la première fois ou même qui viennent dans une église pour la première fois. Sachez-le, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous ce matin. C'est déjà un message positif. Et la première des bonnes nouvelles, parce qu'il faut la voir comme une bonne nouvelle, c'est que Dieu, depuis que vous êtes tout petit, a un regard sur vous. Dieu, depuis qu'il est tout petit, a un plan prévu pour vous. Alors ça, c'est pas simplement moi qui vous le dis, mais c'est Dieu lui-même dans sa parole. Nat, tu peux lancer. Selon ce qui est écrit en Jérémie 1:5, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, j'avais des projets pour toi. Dieu, depuis que vous êtes tout petit et avant même, a des projets, a un projet pour votre vie. Un projet, notez-le, comme pour le petit Victor, qui n'a qu'un seul but, faire de vous déjà dès aujourd'hui un homme et une femme pleinement épanouis. Et maintenant qu'on a tous cette bonne nouvelle, qu'on sait que Dieu a un projet pour notre vie, on va tous avoir une réaction différente face à cette bonne nouvelle. Un peu comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous avez un meuble en kit à monter. Vous savez, vous allez l'acheter à Ikea, pour ne pas les nommer par exemple, vous rentrez avec à la maison, et face à cet achat, face à ce meuble qui arrive à la maison, vous avez tous des attitudes, on a tous des attitudes différentes. Normalement, l'attitude de base, l'attitude scolaire, j'ai envie de dire, serait de se dire, bon voilà, j'ai acheté ce meuble, je rentre à la maison, chérie, mon but, mon plan, mon objectif de la journée, c'est de le monter. Et vous prenez le guide, vous suivez étape par étape, et normalement, à la fin de la journée, le meuble est monté. Ça n'empêche pas les couacs, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous savez, vous arrivez à l'étape 9, messieurs, bon, mesdames aussi, peut-être, mais messieurs. Et vous vous rendez compte qu'à l'étape 4, vous avez monté une planche à l'envers. Faut tout redémonter pour remettre. Voilà. Ou à la fin, vous vous retrouvez avec des pièces dans votre main. Vous ne savez pas où elles devaient aller. Mais bon, c'est comme ça. Normalement, malgré tout, à la fin de la journée, le plan, l'objectif est rempli. Mais il y a d'autres attitudes. Il y a celui qui va commencer à monter le meuble et au premier couac, justement, va dire, oh, moi, j'en ai marre. J'ai eu le coup hier, j'ai fait quelques travaux. Va dire quelques paroles qui ne sont pas chrétiennes. S'énerver et puis laisser tout en plan et dire c'est pas grave. Mais vous noterez que la possibilité de revenir sur ce plan, sur cet objectif initial, à tout moment lui est offerte. Vous avez également celui qui va rentrer, qui va dire chérie, tu vois, moi, des meubles comme ça, j'en ai monté plein. Moi, j'ai même pas besoin du guide étape par étape, je vais te le montrer au talent, à l'expérience. Bon, la plupart du temps, il y a de fortes chances que le meuble soit un petit peu bancal à la fin. Mais vous noterez que la possibilité toujours de redémonter et de recommencer le plan lui est offerte. Et puis vous avez une dernière attitude, vous avez celui qui va acheter le meuble, rentrer à la maison, dire « bon chéri, c'est bien, on a acheté ce meuble, mais moi, c'est pas mon objectif, c'est pas mon plan de la journée, je le laisse dans un coin de la pièce, j'y reviendrai plus tard ». Et force est de constater que de temps en temps, il peut se passer des jours, des mois, des années, même parfois toute une vie, sans que ce meuble soit monté et qu'il reste dans un coin de la pièce. Et bien avec le plan que Dieu nous a donné, c'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes attitudes. Mais vous noterez, le point important, c'est que peu importe où vous en êtes, si ce plan vous a été communiqué ou pas aujourd'hui, que vous l'ayez commencé ou pas aujourd'hui, que vous ayez peut-être mal négocié à un moment donné, la possibilité de revenir à ce plan vous est toujours donnée. Amen. Surtout que Dieu vous a donné et nous donne des outils pour réaliser ce plan. Et ces outils, et ça, une nouvelle fois, ce n'est pas simplement moi qui vous le dis, on le verra après, mais ces outils, ça peut être, je vais être un peu bateau, hein, la Bible, la prière, la parole, le Saint-Esprit, etc., etc. Mais moi, ce matin, je voulais insister sur un outil avec vous particulier que l'on oublie peut-être, que l'on néglige de temps en temps, c'est que Dieu, parmi les outils qu'il nous a donnés pour réaliser le plan qu'il a prévu pour notre vie, il nous a donné des talents. Vous avez tous ici des talents qui vont de pair justement avec le plan que Dieu vous a donné. Et ça, donc, comme je vous le disais, ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais Dieu, une nouvelle fois dans sa parole, lorsqu'il est écrit en 1 Corinthiens 7, « Chacun a reçu de Dieu au moins un don, au moins un talent qui lui est propre, qui lui est personnel. » Et comme je vous ai dit, en plus, un don et un talent qui, comme par hasard, la plupart du temps, va de pair avec le plan que Dieu a prévu pour votre vie. Des talents qui peuvent toucher plein de domaines. Peut-être que vous pensez dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, c'est vrai, on m'a déjà dit que moi, c'était un peu mon talent, etc. » Mais vous savez, ça peut être des talents qui sont à la fois innés, des talents qui peuvent s'obtenir en grandissant, avec la maturité, et des talents qui touchent plein de domaines. J'ai noté, par exemple, la musique, l'écrit, l'oral, le relationnel, la gestion, l'organisation physique, des talents manuels, sportifs, techniques, informatiques, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Mais des talents qui n'ont qu'un but, et notez-le, c'est vraiment le point important, ils vont de pair avec le plan que Dieu vous a donné, et ils n'ont qu'un but, réussir, faire que vous réussissiez ce plan. Après ce que je vous ai dit ce matin et l'introduction, vous comprendrez certainement le titre de ce que je vais vous partager pendant les 25 minutes qui nous restent à passer ensemble. Ce matin, mon but sera de vous expliquer que Dieu nous a donné des talents, du moins de vous convaincre, si vous n'êtes pas encore convaincu de ça, et que surtout, la plus belle façon et la meilleure façon de les faire briller, c'est de le faire avec et pour lui. Et pour illustrer ça, j'utiliserai une histoire ce matin. Et cette histoire, c'est une histoire que j'aime bien, c'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, 13 à 16, c'est l'histoire de Samson. Et j'aime bien cette histoire, et je pense que cette histoire a inspiré beaucoup de monde, et pas uniquement chrétiens, parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Samson et Dalila, c'est une histoire qui a quand même inspiré des films, des opéras, du théâtre, et même récemment, il y a eu une série qui est sortie sur la télé, sur la Bible, c'était il y a 6 ans, et cette histoire de Samson a fait l'objet d'un épisode entier, pour vous dire. C'est quand même une histoire assez inspirante. Et justement, cet épisode, je l'ai re-regardé en préparant cette prédication ce matin, et je me suis dit, tiens, ça serait bien de m'appuyer sur quelques petits passages de cet épisode et de pouvoir vous en proposer des bouts pour que vous visualisiez mieux ce que je veux dire. Et on va commencer justement par un premier extrait qui va nous permettre de déterminer ensemble le contexte de cette histoire. Je vous propose de la regarder ensemble et on en parle juste après. Voilà. Alors, vous l'aurez compris en voyant ce petit passage vidéo, on est dans un moment particulier de l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui était dans une partie un peu compliquée de son existence puisqu'il vivait une période de pleine désobéissance. Il désobéissait à Dieu et il a tellement désobéi à Dieu qu'à un moment donné, il s'est même détourné de Dieu et Dieu n'était pas très content. Et il s'est dit, Dieu, à ce moment-là, qu'il allait faire quelque chose, il allait les livrer pendant un certain temps, pendant 40 ans, entre les mains du peuple ennemi, le peuple des Philistins, qui ici était représenté dans la vidéo, vous savez, ceux qui étaient à chevaux, autant dire, ils n'étaient pas très tendres avec eux, dans un seul but, il s'est dit, en les livrant, ils seront au fond du trou, et à un moment donné, ils vont peut-être se retourner enfin vers moi. Sauf qu'à un moment donné, au bout d'une vingtaine d'années, cela a assez suffi aux yeux de Dieu, et Dieu décide de les délivrer. Et il met en place pour cela un plan particulier qui reposera principalement sur les épaules d'un homme. Cet homme, c'est Samson. Et Samson, il est le fruit d'un miracle, d'une naissance du moins miraculeuse, puisque vous l'aurez compris également dans cette vidéo, sa maman était stérile. Dieu permet à cette femme d'avoir un enfant à 2 conditions, vous l'aurez noté également. La première, c'est qu'elle ne boit ni alcool, ni ne mange d'aliments impurs pendant sa grossesse. Alors c'est rigolo parce qu'on est, je vous l'ai dit ici, bien avant Jésus, il y a plusieurs siècles, On a démontré, je pense, depuis, je sais pas, hein, peut-être moins d'un siècle, que pour une femme, pendant sa grossesse, c'est pas bon de boire de l'alcool et manger certains aliments impurs. Force ici est de constater, c'est rigolo, que Dieu lui avait saisi ça depuis bien longtemps. Hein. Il n'avait pas eu besoin de la science pour ça. En tout cas, quel était le but, en tout cas, de Dieu à travers ça? C'est de faire en sorte que Samson naisse avec toutes les capacités physiques et intellectuelles possibles pour récupérer, pour avoir et pouvoir manifester les dons que Dieu allait placer et les talents que Dieu allait placer en lui. Et deuxième chose, il lui est demandé à cette dame, à cette femme, de ne jamais couper les cheveux de Samson. Et là encore, il y a un but particulier, vous avez peut-être saisi le mot, c'est le but, c'est qu'il fasse le vœu de Naziréa. En fait, je ne sais pas si vous avez, ben vous devez savoir, dans l'Église catholique, par exemple, les prêtres font le vœu de célibat dans un seul but, à travers ça, montrer qu'ils sont pleinement consacrés à Dieu. Et ben à l'époque, certains hommes qui se démarquaient un petit peu dans le peuple d'Israël faisaient ce qu'on appelle le vœu de Naziréa, ne se coupaient ni les cheveux ni la barbe, dans un seul but, ben, finalement, ne prendre pas soin de leur aspect physique. Et donc, à travers ça, ils prouvaient qu'ils étaient pleinement consacrés à Dieu. Et ce qui est important de noter, c'est que parce qu'il sera consacré à Dieu, Samson pourra manifester ainsi ses talents pleinement, parce qu'il lui est consacré. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette femme va respecter ce que Dieu et son messager lui a dit. Samson va naître, va grandir, et très vite, les talents que Dieu a placés en lui vont se manifester. Des talents qui vont de pair avec le plan que Dieu a fixé pour sa vie depuis qu'il est tout petit, et même avant, c'est qu'il libère le peuple de l'emprise des Philistins. Et ces talents, ce qui est rigolo, déjà on les compte au nombre de 5, et ils sont aussi bien physiques, manuels qu'intellectuels. Ils touchent beaucoup de domaines. Alors, les 3 premiers peuvent paraître obsolètes aujourd'hui, dans le temps où on est, mais Dieu, je suis persuadé, adapte ses plans en fonction des époques, et forcément, du coup, comme les plans sont différents, il adapte également les talents. Et les talents de Samson, les 3 premiers sont plutôt physiques et manuels. Le premier, c'est que Samson était un fin chasseur. On retrouve ça dans le livre des Juges, 14 à 6. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et sans rien en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Assez costaud quand même, je vous laisse. Non, vaut mieux pas qu'essayer. C'est assez costaud. Autre talent, c'est que Samson était un guerrier hors pair. C'était inné en lui, ça le caractérisait, comme on voit en Juges 15, verset 5. Puis, trouvant une mâchoire d'âne encore fraîche, il étendit la main pour s'en saisir et avec elle abattit 1000 hommes philistins. Bon, c'est pas très gai, ça remet dans le contexte de l'époque, mais ça montre quand même qu'il avait ce talent en lui d'être un guerrier hors pair, pas besoin de faire l'école militaire apparemment, il était assez costaud. Et le troisième talent, qui regroupe un petit peu les deux et qui explique aussi en partie les 2 premiers, c'est que Samson était quelqu'un de puissant musculairement. Vous savez, le genre de personne qui a pas besoin d'aller à la salle de muscu pour soulever de la fonte, lui c'est comme ça. D'accord ? Un petit dev ? Pas besoin d'aller. Lui, il vient, il soulève du... Je dis ça parce qu'il m'impressionne à chaque fois qu'on y va. Et donc, selon ce qui est écrit en Juges 16, verset 3, « Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Il se leva alors, saisit les battants de la porte de la ville et les 2 montants, les arracha avec leurs verrous, les mit sur ses épaules et les emporta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. » Sacrée performance sportive, on peut le dire. Mais les talents, je vous l'ai dit, sont aussi bien physiques, manuels qu'intellectuels. Et les 2 derniers talents sont intellectuels plutôt et vont cette fois un peu plus nous parler parce qu'ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Et le premier intellectuellement, c'est que Samson avait un esprit logique. C'était inné chez lui, ça le caractérisait en tout cas. Selon ce qui est écrit en Juges 14, 12, Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin et que vous en trouviez le sens, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. » Vous savez, Samson, c'est le genre de personne qui invente lui-même ses énigmes, vous les propose, vous ne trouvez pas. Alors en plus, il vous dit 30 tuniques, 30 habits. Bon, c'était un beau cadeau pour l'époque. Et à la fin, vous ne trouvez pas, il vous dit la réponse et vous dites « Ah bah oui, c'était logique, mais oui, mais il y avait que lui qui avait la bonne réponse et qui pouvait la trouver. » Bref, le genre de personne qui vous énerve, en tout cas quand il a ce genre de talent, mais il a cet esprit logique, c'est important de le noter. Et enfin, dernier talent que Dieu avait placé et que Dieu a placé en Samson, c'est qu'il a une âme de leader. Selon ce qui est écrit en Juges 15, verset 20, Samson fut juge d'Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Bref, vous l'aurez compris, cinq talents qui vont de pair avec le plan que Dieu a placé dans sa vie qui est libérer le peuple d'Israël des Philistins. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que ces dons, ces talents, Samson les manifestait pleinement tant qu'il se plaçait sous le regard de Dieu. Parce que ce qui est rigolo, je ne l'ai pas montré ici, ou on le voit en partie, c'est que à chaque fois que ces talents sont exprimés dans la parole, vous pourrez faire attention, juste avant ou juste après, il y a une petite mention particulière qui prouve que s'il fait ces choses-là, s'il exprime ses talents, c'est parce que Dieu est avec lui. Selon encore ce qu'on voit, par exemple, je vous ai mis un exemple, en Juges 14, 25, poussé par l'Esprit, il commença à agir. C'est parce que Dieu était en lui qu'il agissait de cette façon-là et qu'il exprimait ses talents. Mais si Samson était un homme talentueux, il en avait cinq, et vous avez tous des talents ici, c'est un homme avant tout, et qui dit homme dit aussi qu'il a ses défauts. Homme avec un grand H, mesdames, je ne veux pas vous exclure, on y est tous, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il avait également des défauts. Et aussi bien comme ses talents, ses défauts, on les voit assez clairement. Et ce qui est rigolo, enfin, façon de parler, c'est que autant les talents, on en a certains qui sont obsolètes aujourd'hui, autant les défauts humains, ils traversent les époques. C'est toujours les mêmes il y a plusieurs centaines d'années qu'aujourd'hui. Et les défauts que l'on retrouve dans Samson et qui fait que malgré ses talents, c'était loin d'être un homme parfait, on les retrouve dans un premier temps dans son caractère. Samson était par exemple un homme impatient, dans le sens qu'il voulait que tout aille vite, et surtout il était incapable par exemple de tenir un secret. Vous vous souvenez l'histoire de l'énigme, hein ? Ben, on a la finalité ici, en Juges 14, 17, à force d'être harcelé par les gens qui l'entouraient, il n'a même pas attendu les 7 jours, il finit lui-même par expliquer l'énigme à ceux à qui il l'avait posée. Vous voyez, c'est un peu dommage quand même. Bref, un homme impatient, mais également un homme impulsif et colérique. On le voit un petit peu dans l'expression de ses talents, si vous l'avez saisi dans les passages qu'on a vus juste avant, mais on le retrouve encore en Juges 14, 19. Puis, plein de colère, il remonta vers la maison de son père. Mais ses talents étaient aussi bien dans son caractère qu'il se manifestait également à travers des péchés chroniques. Et Samson avait un problème. Un gros problème, si on peut parler, c'est qu'il avait un problème de relationnel avec les femmes et le sexe. Autant le dire clairement, comme ça, la première chose, c'est qu'il avait une soif déraisonnable de séduction. Tout au long de son histoire, il a un relationnel avec les femmes très particulier, il veut des femmes. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça commence dès le début de son histoire, en Juges 14. À Timna, j'ai remarqué une femme parmi les Philistes, des filles des Philistins, père, mère, il s'adresse à ses parents, prenez-la donc moi pour femme. Et là, il mélange ça avec un trait de son caractère, impatience. Bref, je la veux tout de suite. Et à la fin de son histoire, encore une fois, avec une autre femme, qu'on reviendra dessus après, c'est Dalila, en Juges 16, 4. Après ces événements, il s'éprit d'une femme de la vallée de Sorek, encore une philistine nommée Dalila. Et ce péché, donc cette soif déraisonnable de séduction, va de pair. Cette fois, pas avec le plan que Dieu a prévu pour lui, pas forcément, mais avec un autre péché qui est dérive sexuelle. On le voit en Juges 16, verset 1. Samson se rendit à Gaza, il y vit une prostituée. Lui, il la voit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre chez elle. Je vous fais pas un dessin pour la suite. Bref, vous l'aurez compris, Samson était un homme talentueux, mais c'était également un homme qui avait des défauts. Et malheureusement, au cours de son histoire, ses défauts, il ne les réglera pas. Et quand on nie ses défauts, quand on nie ses erreurs, ses péchés, le risque à un moment donné, c'est que ceux-ci prennent une place plus grande que nos talents. Même si nos talents viennent de Dieu, même s'ils vont de pair avec un plan qu'il a prévu pour nous, ces défauts, à un moment donné, peuvent prendre le dessus et mener à tout moment à notre chute. Et c'est ce qui est arrivé à Samson et ce qui nous mène à un deuxième extrait vidéo que je vous propose de regarder ensemble et on en reparle juste après. Alors, vous l'aurez compris dans cet extrait, donc c'est la chute de Samson. Les Philistins, à un moment donné, on peut l'imaginer quand on voit les talents de Samson, et puis qui n'ont qu'un seul but, hein, faire en sorte qu'il délivre le peuple d'Israël des mains des Philistins. Mais les Philistins ont vu ses talents, les talents de Samson, d'un œil premièrement inquiet, forcément, mais aussi jaloux. On peut l'imaginer, surtout à l'époque, être un guerrier fort, puissant, et tous ses leaders, etc., étaient vus par jalousie. Ils avaient, en tout cas les Philistins, conscience que Samson était un homme talentueux et le voyaient comme dangereux. Mais s'ils avaient aussi bien conscience de ses talents, ils avaient surtout conscience de ses défauts, parce que Samson ne les cachait pas. Et bah, pour eux, ça n'a pas été du coup compliqué d'utiliser justement ses défauts pour entraîner sa chute. Ici, les défauts qui ont été utilisés, c'est sa soif déraisonnable de séduction, en l'occurrence ici sa relation avec Dalila, et également son impatience. Pourquoi ? Parce que ils ont simplement demandé à... Pardon, je pensais que la vidéo se remettait en route. Ils ont demandé à Dalila, pardon, de le sonder, de sonder Samson, de lui demander quel est son secret, essayer de percer finalement son secret dans un seul but, ben finalement le comprendre et pouvoir mieux l'emprisonner. Et si les Philistins avaient saisi les faiblesses de Samson, ils avaient également saisi les faiblesses de Dalila, qui, on le voit ici, était son relationnel à l'argent. Je pense en tout cas, elle avait une soif, elle, d'argent, et ils n'avaient plus qu'à l'acheter. Bref, ils ont utilisé donc les défauts de Samson pour le faire tomber. Et Samson, lui, son secret était simple. Sa force, elle résidait dans la longueur de ses cheveux, dans son vœu de Naziréa. Si on peut se permettre de faire un parallèle avec aujourd'hui, entre cette histoire aujourd'hui, la première chose qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de cacher ses défauts. Il ne faut pas avoir peur de les nier, ses défauts. Et surtout, il faut que nous apprenions à régler ces défauts. Vous savez, ces petits défauts, même caractériels, ces péchés, ces choses qui on se dit, bah, à force, c'est tout, c'est comme ça. Non, il faut à un moment donné que nous apprenions à les régler, parce qu'à tout moment, comme pour Samson, ils peuvent nous mener à la chute. Et la deuxième chose, c'est par rapport à nos talents. Nous avons tous ici des talents, mais sachez-le, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui voit d'un mauvais œil les talents. Enfin, surtout en France, c'est comme ça. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais je pense dans le monde aussi. Quand on a un talent, qu'on l'exprime un petit peu, c'est bien. Mais si on l'exprime un peu trop, ça devient vite gênant. Pourquoi ? Parce que le monde est jaloux des talents que nous avons. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris que si nous avons ces talents et que lui ne l'a pas, c'est pas contre lui, mais c'est simplement parce que Dieu place en chacun de nous des talents différents qui vont de pair avec le plan qu'il a prévu pour notre vie. Et que chacun d'entre nous ici, nous avons tous des plans différents. Dieu a prévu des plans différents pour nous. Et le but, à un moment donné, du monde qui nous entoure, face à cette réalité, c'est qu'il va tellement être jaloux que son but ne sera pas de vous féliciter du talent que vous avez, mais de l'étouffer. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici, au moment où je parle, a un exemple dans sa tête, au boulot, dans ses loisirs, dans ses relations même amicales, où à un moment donné, on a essayé d'étouffer ses talents. Mais la deuxième bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu n'est pas comme le monde. Et lui, vous savez, quand vous avez des problèmes, des défauts, il ne faut pas les cacher. Lui, si vous lui révélez, il n'a qu'un seul but, c'est de faire que là où vous êtes faible, vous deveniez fort. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est la Bible, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 12. Et la deuxième chose, les talents, lui, Dieu, il n'est pas jaloux de vos talents. Bah non, à quoi bon être jaloux de vos talents, puisque c'est lui qui les place devant vos vies, dans vos cœurs. Et il n'a qu'une seule envie, c'est que vous les exprimiez, pas que vous les étouffiez, parce que ces talents, il les a mis pour un seul but, que le plan qu'il a prévu pour vous soit réalisé. Et pour exprimer ça, pour illustrer ça, je vais utiliser un témoignage qui me concerne un peu ma vie, mais surtout celle de mon épouse. Je la prends par surprise. Je suis persuadé, mon épouse, Pauline ici présente, pour ne pas la nommer, que depuis qu'elle est toute petite, Dieu a un plan pour sa vie et Dieu a placé des talents, et notamment un talent dans son cœur. Ce talent, c'est le piano. Alors, je l'ai prise par surprise, elle ne le sait pas. Je suis allé voir parce qu'elle a gardé, vous savez, toutes ces bulletins, si on peut parler comme ça, de l'école de musique. Je suis allé les voir et ses profs mettaient quand même des bonnes choses. Elle était talentueuse depuis le départ. Elle était donc à l'école de piano, elle passait bien ses auditions. Et à un moment donné, ça c'est, je le sais, elle a demandé à ses profs, elle a dit, bon ben c'est bien, j'aime bien, mais moi j'aimerais jouer des choses que je connais, des chansons que je connais, pas les chants du solfège, mais des chants connus. Et ses profs lui ont dit, oh là là, je résume, hein. Fais pas ta star, hein, c'est pas parce que t'es talentueuse, tu continues les chants de solfège et on verra ça plus tard. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça a fait ? Eh ben, le talent que Dieu avait placé en elle, finalement, les profs ont fait une chose, ils l'ont étouffé. Elle a arrêté le piano. Elle l'a repris finalement plus tard, là je la connaissais à ce moment-là, vers 18 ans, mais elle a repris le piano un peu, vous savez, par esprit de revanche sur le passé. Elle s'est dit, je vais reprendre le piano et cette fois je vais apprendre des chants que j'aime bien. Elle a appris, elle les a fait, elle en a même fait des vidéos YouTube, vous savez. Et puis ça marchait bien ces vidéos, elle avait pas mal de vues, pas mal de j'aime, pas mal de commentaires. Mais à un moment donné, ce n'était que pour étancher une soif qu'elle avait en elle, cette revanche du passé. Et ça a fini par étouffer une fois de plus son talent, elle n'a pas été plus loin. Et finalement, ce n'est que depuis janvier cette année que, alors on pourrait en faire toute une histoire, en raconter, mais je vais résumer rapidement, que Dieu a mis dans son cœur de reprendre le piano, mais pour jouer des chants de l'Église. Elle s'est mise à commencer à essayer de faire des chants. Et puis elle est venue à la répétition, à partir du mois d'avril, elle a commencé à jouer, et depuis un mois, non, début du mois, elle a même fait la louange ici un dimanche matin. Et vous savez ça, vous ne savez peut-être pas, mais au mois de juin, elle est venue me voir, et puis après une répète, elle m'a dit, c'est dingue, c'est fou, ça fait des années que je joue du piano, depuis toute petite, je joue du piano, mais simplement aujourd'hui, à 30 ans, je prends réellement du plaisir à jouer ce que je joue. En réalité, Dieu avait placé un talent dans sa vie depuis qu'elle était toute petite, ce piano, qui allait de pair avec un plan qu'il avait prévu pour elle. Le plan, c'était qu'un jour, elle puisse louer Dieu et aider l'assemblée ici à louer Dieu à travers son talent. Et ce n'est que quand elle a enfin mis ce talent de pair avec le plan que Dieu avait placé en elle, qu'elle a enfin été une femme pleinement épanouie dans ce que Dieu voulait pour elle. Alors, c'est le moment de conclure. Et pour conclure, il nous reste deux diaporamas à en voir ensemble. La première, c'est la fin de notre histoire. Reprenons la fin de l'histoire de Samson. Samson, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ses cheveux sont coupés. Donc, à travers ça, symboliquement, le vœu de Naziréa est terminé, enfin, est enlevé. Il est donc privé de ses talents. Ses yeux sont même crevés, il est prisonnier. Bref, il est au fond du trou. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au fond du trou, mais dans ce cas-là, deux attitudes sont possibles. Soit on est fataliste et on se morfond, souvent on tombe peut-être dans la drogue, l'alcool, plein de choses, vous savez. Ou on essaye de se ressaisir. Et une des solutions pour se ressaisir, c'est de se tourner vers Dieu. Et Samson, lui, a fait ce choix-là. À ce moment-là, il se dit, je vais me ressaisir, je vais me retourner une dernière fois vers Dieu. Et il a fait le bon choix. Parce que Dieu, lui, sachez-le, peu importe nos cheminements, peu importe d'où vous venez ce matin, peu importe la vie que vous avez vue, il a un plan pour vous depuis que vous êtes tout petit et il veut rester fidèle et il reste fidèle au plan qu'il a prévu. Il est le Dieu du pardon. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Peut-être que vous avez à un moment donné, c'est un péché, peut-être que c'est des défauts, peut-être que c'est des choses et vous êtes en train de vous dire, c'est lourd là sur moi, je prends conscience de ça. Sachez-le, Dieu veut vous enlever cette lourdeur. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la croix pour la mort de vos péchés, pour que vous soyez totalement libérés de ce poids, cette culpabilité qui est sur vous et que vous ayez un plein accès direct à Jésus. Et pour avoir accès à lui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est crier. Crier, prier, adressez-vous à lui. Il entend ceux qui l'appellent. Et ici, quand Samson s'est adressé à Dieu, même après tout ce qui s'est passé, Dieu a entendu son cri. Et les talents qu'il nous a donnés, les talents qu'il avait donnés à Samson, on pourrait dire à ce moment-là, il ne pouvait plus les exprimer. Mais non, en fait, il les faisait juste sommeiller en lui et il les fait juste sommeiller en nous. Parce que ce que les Philistins avaient oublié, c'est qu'on a beau couper des cheveux, à un moment donné, les cheveux, ils repoussent. Et le vœu de Naziréa reprend à tout moment, et Samson, à un moment donné, pouvait à tout moment réexprimer ses talents. Et c'est ce qu'il a fait, il les a réveillés. Et Samson, ce qu'il a fait, c'est que après avoir crié à Dieu, et avec ses cheveux qui poussent, il a retrouvé sa force. Il était dans un temple philistin, où il y avait des dizaines de milliers de philistins. Il a poussé les pylônes du temple, le temple s'est effondré, et c'est pas forcément gay, mais c'est comme ça. Il a tué, en l'espace d'un instant, plus de philistins qu'il n'en avait tué dans toute son existence. Bref, il a su accomplir en partie le plan que Dieu avait prévu pour lui, malgré tout. Conclusion. Si vous deviez retenir trois choses ce matin, j'aimerais que ce soit ces trois choses-là. Et vous pouvez venir à la limite le groupe pour juste après, on fera un chant. La première, c'est que tu as des talents. Sache-le, Dieu, depuis que tu es tout petit, a placé des talents en toi. Alors peut-être que tu es en train de penser, mais vous savez, ce genre de talent qu'on vous dit à chaque fois, ouais, « Waouh, ça te caractérise, t'es comme ça, c'est fou !» Mais c'est des talents qui vous sont propres. Alors peut-être que tu dis, « Moi, j'ai pas de talent. » Sache-le, ça c'est un mensonge, c'est faux. C'est peut-être la vie qui fait que tu penses que tu n'as pas de talent, peut-être qu'on t'a dit que tu n'avais pas de talent, mais c'est faux. Interroge ton entourage personnel autour de toi, je suis sûr qu'il saura en trouver. Et même ici, à l'église, on fait le Betsagi d'un moment donné, je pense, on fait un questionnaire, je l'ai fait, où vous devez cocher des croix, et à la fin, on vous dit, voilà ce qui ressort, les talents qui ressortent en toi. Pour l'avoir fait personnellement, et pour connaître des gens autour qui l'ont fait ici, ça tombe juste. Oui, vous avez des talents, au moins un, mais certainement plus. Peut-être qu'à l'inverse, tu te dis, oui, je sais que j'ai des talents, mais je n'arrive pas à les exprimer, ou alors on a essayé de me les étouffer. Peut-être que la vie, une expérience, un péché, t'empêche d'exprimer ton talent ou tes talents à sa juste valeur. Et bien dans ce cas-là, n'oublie pas ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que Dieu, si tu cries à lui, si tu l'appelles, ses talents, il les a juste faits. Il ne les a pas éliminés, même si le monde a voulu les éliminer, il les a juste mis légèrement de côté, il peut les réveiller à tout moment. Dieu est le Dieu du pardon, le Dieu du renouveau, et il n'a qu'une seule envie, c'est que ses talents, tu l'exprimes pour le plan qu'il a prévu pour ta vie. Et enfin, sache que Dieu, il veut, comme je l'ai dit juste avant, que tu fasses briller ses talents avec et pour lui. Pourquoi ? Parce que, un, il veut le meilleur pour toi. Deux, il n'est pas jaloux de ses talents. Et c'est normal, c'est lui qui les a donnés pour réaliser justement ce plan. Sa plus grande tristesse ce matin serait que tu partes d'ici sans les faire désormais briller pour lui. Et si j'ai utilisé ce verbe briller, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Jésus, en Luc 11, 33, il a utilisé cette image. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher ou pour la couvrir d'un seau. Au contraire, il la place bien en haut et ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. Si Dieu a placé des talents, ce n'est pas pour que vous ne les exprimiez pas ce matin ou dans le reste de votre vie, mais c'est pour vous, pour un seul but, c'est que vous retrouviez au milieu de la pièce et que ces talents jaillissent et brillent et que tout le monde autour puisse le voir. Mais n'oubliez pas, la meilleure façon de les voir, c'est de les faire briller pour lui. Voilà. J'en ai terminé ce matin. On va juste prendre un chant, vase d'argile, et puis prier. Et je laisserai après la parole à papa pour terminer. Seigneur, je voulais te remercier ce matin pour cette matinée particulière, parce que c'est une matinée particulière. Je veux, Seigneur, dire ce matin, c'est une matinée de réjouissance, parce que la présentation d'un enfant est toujours un très beau moment, Seigneur. Mais Seigneur, je ne veux pas oublier, Seigneur, qui tu es également. Est-ce que tu fais dans nos vies ? Est-ce que la vie, des fois aussi, nous fait ? Mais je ne veux pas oublier, Seigneur, que tu es le Dieu du pardon, que tu es le Dieu du renouveau, et que depuis que tu es tout petit, tu as placé des talents dans chacun d'entre nous. Que ce matin, Seigneur, tu puisses révéler ces talents. Si tu penses, Seigneur, certaines personnes pensent qu'ils n'en ont pas, Seigneur, leur montrer clairement là où tu leur as donné des talents. Que tu puisses également donner les plans, Seigneur, si certains se disent... Oh, j'ai des talents, ok, mais je ne vois pas le plan. Révèle le plan que tu as prévu pour eux. Et Seigneur, également, que tu puisses aider ceux pour qui les talents ont été étouffés ou que, par exemple, un péché, des défauts étouffent. Que tu puisses vraiment les libérer de cela, Seigneur. Que tu puisses vraiment entrer dans nos vies et faire le ménage dans notre cœur pour faire de nous des hommes et des femmes pleinement épanouis en toi. Amen.